VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous et bon réveil à l'écoute de VOA Afrique. Au micro ce vendredi matin, Nicolas Pineau et Anne Albertson à la une de notre émission.
Les groupes Touareg annoncent leur intention de signer l'accord de paix d'Alger.
D'aller vers l'avant. Et sans exception, le Mali a besoin de tous ses enfants, de tous ses fils, qu'il résout ses problèmes et qu'il rebâtisse ce que nous tous nous avons détruit.
Rapprochement entre Washington et La Havane, Cuba pourrait être retiré de la liste des pays soutenant le terrorisme. Rencontre historique cette nuit entre les chefs de la diplomatie des deux pays.
Le Togo signe l'accord Open Sky avec les États-Unis. Ce que cela signifie pour les Togolais, les explications ce matin dans notre émission.
C'est un accord historique parce que c'est une étape importante dans la réalisation de l'objectif du gouvernement américain visant à améliorer le climat des investissements au Togo.
Vos rendez-vous habituels après le journal, la Minute Éco et le journal des sports, suite des réactions au tirage au sort des éliminatoires de la CAN 2017. Ce matin, nous entendrons le sélectionneur du Mali, Alain Giresse. Mais tout d'abord, sur VOA Afrique, le journal.
Espoir au Mali, les groupes du Nord à majorité Touareg s'engagent à signer l'accord d'Alger du 1er mars 2015. Ce document paraphé par le gouvernement malien et la plateforme des groupes d'autodéfense avait dans un premier temps été rejeté après une réunion des différents groupes à Kidal. Kassim Traoré, la coordination des mouvements de l'Azawad, est prête aujourd'hui à paraffer le document le 15 avril prochain à Alger.
C'est au nom de la médiation internationale que l'Algérie a informé le gouvernement malien de la décision prise par la coordination des mouvements de l'Azawad qui veut paraffer l'accord d'Alger le 15 avril prochain. Aussitôt informé, le chef du gouvernement malien a réuni les forces vives de la nation, l'opposition et la majorité, plus les acteurs de la société civile. Le gouvernement et la majorité se réjouissent de la décision prise par les belligérants. L'opposition malienne préfère attendre le paraphe avant de se prononcer, le temps aussi de discuter avec sa base. Côté algérien, l'heure est à la préparation de cette cérémonie. Le ministre algérien des Affaires étrangères a envoyé une lettre d'invitation à plusieurs délégations pour assister à la cérémonie du mercredi prochain à Alger, Bamako. Kassim Traoré, VOA Afrique.
C'est dans ce contexte qu'hier à New York, devant le Conseil de sécurité, le ministre malien des Affaires étrangères avait demandé au Conseil de sécurité d'accentuer la pression sur les rebelles du Nord. Le projet d'accord négocié à Alger prévoit une plus grande autonomie au Nord et permettrait de mettre fin à un conflit meurtrier depuis 2012.
Autre voix qui appelle à la paix et à signer cet accord de paix, c'est le colonel Hassan Ag Mehdi. Le secrétaire du Front populaire de l'Azawad, aussi appelé Jimmy le Rebelle, affirme que l'accord d'Alger est une garantie pour la paix et la relance économique.
L'appel que je lance aujourd'hui, c'est celui d'aller vers l'avant. Et sans exception, le Mali a besoin de tous ses enfants, de tous ses fils, qu'il résout ses problèmes et qu'il rebâtisse ce que nous tous nous avons détruit. Ce qu'il y a lieu de faire aujourd'hui, c'est de se dire d'abord la vérité. Et c'est la dire individuellement. Aujourd'hui, il faut que le pays soit rebâti. Et il ne va être rebâti qu'avec ses fils soudés. Il faut que les gens se comprennent. Il faut qu'ils arrêtent de se chamailler. Aujourd'hui, ce pays peut constituer l'armée la plus forte du monde. Si ses fils se retrouvent, ils se disent la vérité et que chacun d'eux se sente malien.
Colonel Hassan Ag Mehdi au micro de Kassim Traoré.
On reste à Bamako où l'ancien otage néerlandais libéré lundi par les forces françaises assure avoir besoin de calme. Chaque riche queue a appelé les médias à ne pas le contacter après sa captivité. Après avoir rencontré mardi le président malien, chaque riche queue et son épouse se sont rendus dans un endroit non divulgué afin de se retrouver puis de rentrer aux Pays-Bas. C'est ce qu'indique le ministère néerlandais des Affaires étrangères.
L'ONU et des ONG appellent aux dons en faveur des réfugiés nigérians qui fuient Boko Haram. 174 millions de dollars, c'est la somme nécessaire pour venir en aide à quelques 200 000 réfugiés nigérians répartis au Tchad, au Niger et au Cameroun.
La justice ivoirienne a remis en liberté Marie-Odette Lorougnon, influente responsable des femmes du Front populaire ivoirien, le parti de l'ex-président Laurent Gbagbo. Après 6 jours en détention pour trouble à l'ordre public, Madame Lorougnon a été relâchée en même temps que 5 co-accusés. Écoutez la réaction de son avocat, Maître Toussaint Dako.
Heureux parce que des gens ont retrouvé la liberté. Et puis je suis déçu parce que l'interpellation, la procédure et tous les migmas qui sont passés me désolent. Ils ont été arrêtés, interpellés, conduits devant le procureur sous la base d'un faux rapport produit par la police. au contact des questions, la réalité était différente du rapport fait par la police qui les a interpellés. Dans le rapport d'interpellation, la police a indiqué que les militants qui étaient venus pour installer la nouvelle direction de la Refondation sont venus s'attaquer à la police, alors que ça n'avait rien à voir, mais juste pour que l'infraction trouble à l'ordre public se réalise et au fini, ils ont pu les condamner.
Maître Toussaint Dacko, il était joint à Abidjan par Chérubin Dorsil.
La République démocratique du Congo a dénoncé jeudi une surenchère qui va au-delà du raisonnable depuis la découverte dans Kinshasa d'une fosse commune. Certains craignent qu'il s'agisse de personnes tuées lors de manifestations survenues en janvier.
Autre actualité congolaise, les travaux de construction du nouveau barrage hydroélectrique d'Inga ne démarreront pas avant 2017. La Banque mondiale annonce ainsi un nouveau retard dans ce projet en gestation depuis plus de 10 ans.
Plusieurs centaines de travailleurs d'une des deux mines d'Areva dans le nord du Niger ont repris le travail jeudi après 2 jours d'une grève déclarée illégale par la justice nigérienne.
Le gouvernement somalien a pris les têtes de 11 responsables des Shabab, offrant des primes de 100 à 250 000 dollars pour leur capture. Le point avec Morgane Guiriec.
En tête de liste figure le chef suprême des islamistes somaliens, Ahmed Oumar Diriyé, dit Abu Abaïda, qui a succédé en septembre à Ahmed Abdi Goden, tué par un drone américain. Mogadiscio offre 250 000 dollars pour sa capture. Il est suivi sur la même liste par son adjoint Mahad Warsam Karate, chef des services de renseignement des Shebab, dont la tête est mise à prix pour 150 000 dollars. 100 000 dollars sont offerts pour la capture de chacun des 9 autres responsables, dont Ali Mohamed Ragé, le porte-parole de ce mouvement radical somalien. Par contre, Mouktar Robo, qui a pris ses distances avec le groupe, ou Fouad Mohamed Khalaf, chongolais, pour la capture desquels Washington offre 5 millions de dollars, ne figure pas sur la liste des autorités somaliennes. Les Shabab ont revendiqué de nombreuses attaques en Somalie et au Kenya voisin, dont la dernière en date, le 2 avril, à l'université de Garissa, qui avait fait 148 morts, dont 142 étudiants.
Le Maroc, qui accueille depuis mars un dialogue interlibyen sous l'égide de l'ONU, se dit convaincu que la paix est proche dans ce pays en proie à une guerre civile. Les principes fondamentaux d'un accord ont été acceptés par les parties rivales en Libye, a assuré le ministre marocain des Affaires étrangères, Salahedine Mezouar, aux côtés de son homologue américain John Kerry, qui le recevait au département d'État dans le cadre du dialogue stratégique entre les deux pays.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Dans le reste du monde, entretien historique entre John Kerry et son homologue cubain au Panama en marge du sommet des Amériques. C'est la première rencontre cette nuit entre des responsables cubains et américains d'un tel niveau depuis 1958. Ce vendredi, on attend une autre poignée de main historique, celle des présidents américains et cubains. Raúl Castro et Barack Obama se retrouvent pour un sommet continental voué à sceller le rapprochement entre Cuba et les États-Unis après 53 ans d'antagonisme.
Et ici à Washington, le sénateur démocrate Ben Cardin a indiqué que le département d'État avait recommandé de retirer Cuba de la liste des pays soutenant le terrorisme, information non confirmée par la diplomatie américaine.
Les États-Unis dénoncent le soutien de l'Iran aux rebelles chiites du Yémen. Dans le même temps, les combats sont restés intenses sur le terrain au 15e jour des frappes aériennes de la coalition dirigée par l'Arabie saoudite contre les rebelles et leurs alliés.
Le secrétaire d'État américain John Kerry a affirmé que son pays savait que l'Iran armait les rebelles chiites houthis ayant pris la capitale Sanaa et de vastes régions du Yémen avant de déferler vers le sud. Le guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, s'en est pris pour sa part à l'Arabie saoudite et aux frappes de sa coalition. Il a demandé l'arrêt de ces actes criminels, qualifiant l'opération d'inacceptable.
Pendant ce temps, à New York, le secrétaire général de l'ONU a lancé un SOS pour les civils de Syrie et du Yémen. Ban Ki-moon exhorte la communauté internationale a déployé des efforts pour mettre fin à la violence et assurer une meilleure protection des civils. Henri Francisque.
S'adressant à la presse hier à New York, le patron de l'ONU a déclaré que le conflit au Yémen a plongé ce pays déjà pauvre dans une sévère crise humanitaire. Les raids aériens de la coalition et les tentatives continues des Houthis et leurs alliés en vue d'étendre leur pouvoir ont transformé une crise politique interne en un violent conflit qui risque d'avoir des répercussions régionales profondes et durables, a déclaré Ban Ki-moon, ajoutant « La dernière chose dont la région et le monde ont besoin, c'est le genre de chaos et de crimes qu'on a vu en Libye et en Syrie. » La seule solution, selon le secrétaire général de l'ONU, est un retour rapide des belligérants aux négociations de paix sous médiation internationale. Ban Ki-moon a aussi exprimé sa préoccupation au sujet de la prise du camp de réfugiés de Yarmouk, près de Damas, par des combattants du groupe État islamique et leurs alliés. 18 000 civils palestiniens y vivent, y compris des milliers d'enfants, a-t-il relevé. Le monde ne peut pas abandonner les habitants de Yarmouk et assister bras croisés à un massacre dans ce camp, a plaidé le secrétaire général de l'ONU.
Enfin, le nombre de migrants arrivés clandestinement sur les côtes grecques a triplé au premier trimestre de cette année. Durant le seul mois de mars, 6493 migrants sont passés par les différentes îles proches des côtes turques, principal point d'embarquement des navires de passeurs.
Place à la Minute Éco, présentée ce matin par Camille Grosdidier.
En République démocratique du Congo, relance des activités minières dans le territoire de Walikale, au Nord Kivu. Ces activités étaient paralysées depuis 2010 par la loi américaine Dodd-Frank, qui qualifiait leurs produits de minerais du sang, les groupes armés restant impliqués dans la chaîne d'exploitation et de commercialisation, ce qui ne serait plus le cas pour certaines, soulignent les autorités. Genève accueille à partir du 13 mars la 6e édition du sommet sur les produits de base de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement. Selon Chris Thérault, économiste à la CNUSED, les pays africains, en établissant des fonds souverains d'investissement, ont appris à se protéger contre les fluctuations des matières premières, comme c'est actuellement le cas du pétrole, le baril ayant perdu environ la moitié de sa valeur.
La gestion des revenus de ces produits de base n'a pas été le meilleur, disons. Cette fois-ci, on a remarqué une amélioration de la gestion de ces revenus, surtout en Afrique. Et donc, on voit, par exemple, au Nigeria, un Sovereign Wealth Fund, à l'Angola aussi.
Et puis, la directrice générale du Fonds monétaire international, Christine Lagarde, a estimé jeudi que la croissance mondiale reste tout simplement insuffisante. En demeurant lente et inégale, la croissance mondiale ne parvient pas à résorber le chômage, a déclaré Madame Lagarde, à quelques jours des réunions de printemps du FMI et de la Banque mondiale.
Merci Camille. À présent, le journal des sports. Et pour en parler ce matin, Bagassi Koura. Bonjour Bagassi.
Oui, bonjour Nicolas.
On reparle de la Coupe d'Afrique des Nations 2017 qui aura lieu au Gabon. Les réactions continuent après le tirage au sort.
Oui, ce matin, la réaction d'Alain Giresse, il est le nouveau sélectionneur des Aigles du Mali. Le Mali qui se retrouve dans le groupe C avec le Bénin, la Guinée équatoriale et le Soudan du Sud. Eh bien, nous avons tout simplement demandé à Alain Giresse son avis sur ce groupe.
Il est équivalent aux autres groupes, au tirage, sauf le groupe où il y a l'Égypte et le Nigeria, ainsi que le Cameroun et l'Afrique du Sud. Ils sont certainement les groupes les plus relevés. Bon, compte tenu des chapeaux qui ont été constitués, voilà, c'est un groupe homogène où les têtes de série sont quand même en présentation les plus avantagées. Comme ça, j'ai dit bien en présentation parce qu'un tirage au sort est une chose, mais la réalité, ça reste les matchs et le terrain.
À première vue, le Soudan du Sud semble être l'équipe la plus faible, mais il y a un inconnu. C'est une équipe qu'on n'a pas très souvent vue sur le terrain.
Ben non, c'est un nouveau pays qui existe que simplement depuis 3 ans, 4 ans. Son équipe de football participe pour la première fois à des grandes compétitions. Donc c'est l'inconnu total. Aucune référence, on ne peut pas savoir ce qu'est la valeur exacte de cette équipe. À nous de bien nous préparer et de nous mettre dans les meilleures dispositions pour y faire face.
Alain Giresse, le sélectionneur du Mali. Dans le classement FIFA, l'Algérie recule au plan mondial.
Oui, la FIFA a actualisé ce jeudi son classement mondial. Si l'Algérie reste numéro 1 sur le continent africain, elle quitte le top 20 du classement. La Côte d'Ivoire, la Tunisie, le Mali, le Maroc, l'Afrique du Sud et la RDC sont également en baisse.
Championnat du Sénégal, défaite 1-0 hier sur son terrain de l'AS Pikine face au club de Ziguinchor, le Casasport. À suivre ce vendredi, le duel entre les deux premiers du championnat sénégalais, Niaritali, le leader qui reçoit l'US Wakam.
Et la NBA pour terminer, le championnat de basketball nord-américain.
Deux matchs seulement au programme hier soir. Chicago a battu Miami 89-78. Un excellent Pau Gasol, auteur de 16 points et 15 rebonds. Et dans l'autre rencontre de la soirée, à l'ouest, Portland, sur le parquet de Golden State, les Warriors s'imposent 116-105 grâce à 41 points de Curry. Merci beaucoup Bagassi Koura pour le Journal des Sports.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Bonjour à tous, si vous nous rejoignez en ce vendredi matin, vous êtes toujours à l'écoute de VOA Afrique, Le Monde aujourd'hui, la deuxième partie de notre émission. Signature cette semaine à Lomé d'un accord Open Sky, autrement dit de ciel ouvert. C'est le premier accord aérien civil entre le Togo et les États-Unis, conclu après 3 ans de négociations. Il offre aux compagnies aériennes des opportunités d'expansion rapide, d'activités passagers et fret entre les deux pays. Pour un éclairage, Timothée Donangmaï a joint à Lomé l'ambassadeur américain Robert Whitehead.
C'est un accord historique parce que c'est une étape importante dans la réalisation de l'objectif du gouvernement américain visant à améliorer le climat des investissements au Togo et soutenir le développement économique. Bien sûr, cet accord permet d'avoir avantage des routes aériennes ouvertes, des règles libérales sur le fretement des droits de transport aérien des marchandises entre nos deux pays. Alors, ça ouvre des possibilités.
Et justement, quel impact cela pourrait avoir sur le commerce entre les États-Unis et le Togo?
Le Togo va ouvrir d'ici 4-5 mois le nouveau terminal à l'aéroport. Ils attendent les autres lignes aériennes qui viennent ici. Ils pensent qu'ils peuvent même avoir 4-5 fois plus de passagers qu'ils ont maintenant. Ils ont une ligne aérienne régionale à Sky qui a le siège ici. Ils pensent que ça fait potentiel pour un hub régional de transport qui passe par Lomé. Et c'était intéressant, par exemple, depuis l'année passée, RTP a lancé, je pense, 3 vols par semaine qui va au Brésil. Il y a toujours la possibilité, bien sûr, de faire quelque chose direct avec les États-Unis. Évidemment, ça dépend sur les motifs commerciaux. Bon, est-ce que ça fait bon sens, point de vue financier et business?
Quand est-ce qu'on verra des liaisons directes, peut-être Washington-Lomé ou bien New York-Lomé?
Où ça pourrait être, mais il y en a déjà dans la région. Il y avait de Liberia. Et il y avait aussi, je pense, de Accra. Mais oui, c'est une possibilité. C'est-à-dire, s'ils veulent faire n'importe quelle société aérienne, cet accord va faciliter les négociations, etc. Bien sûr, il y a des choses, par exemple, cette certification d'aéroport, sur les questions de sécurité. Il y a des étapes qu'on doit passer, mais oui, c'est juste c'est une possibilité.
Robert Whitehead, ambassadeur des États-Unis au Togo, il nous parlait depuis Lomé.
La Voix de l'Amérique au Togo sur Canal FM à Lomé, sur Radio Tchaudio à Sokodé et sur Radio Excelsior à Atakpané.
Le nouveau code électoral au Burkina Faso suscite toujours des remous. L'arrestation de proches de Blaise Compaoré et l'interdiction faite aux partisans de l'ex-président de participer aux élections d'octobre sont des manœuvres pour favoriser l'ancienne opposition. C'est ce que dénonce Djibril Bassolé, l'ex-chef de la diplomatie burkinabé. La mesure semble pourtant assez populaire dans le pays, où elle est soutenue par la plupart des partis politiques et des organisations de la société civile. Bagassi Koura a joint Siaka Koulibaly, analyste politique à Ouagadougou. Lui ne soutient pas la nouvelle loi.
Je trouve que ce n'est pas nécessaire de procéder à une exclusion par la loi, alors que la voie normale aurait été la justice. Parce qu'une loi pareille en démocratie n'a aucune justification. Par ailleurs, le texte est contraire à la constitution du pays et à la charte de la transition qui imposait le principe de l'inclusion. Alors, une fois que nous avons accepté ce principe d'inclusion, la communauté internationale va être réticente à apporter ses concours financiers pour l'élection. Et si l'élection n'est pas réalisée, parce qu'actuellement, le pays a des problèmes budgétaires, donc on va repousser la transition, ce qui est totalement inadmissible.
Ceux qui l'ont adopté disent que les gens de l'ancien régime doivent payer.
Et bien sûr. La meilleure façon de le faire, c'est qu'ils passent devant la justice. Parce que par le texte qui a été adopté, on n'a aucun moyen réel de savoir la responsabilité directe des gens. Ce n'est pas le Conseil constitutionnel qui va étudier les crimes de sang et les crimes économiques et établir la responsabilité de ces acteurs-là. Donc je crois que le texte a des avantages électoralistes pour certains groupes, mais du point de vue de la justice pour les morts du 30 octobre et pour tous les crimes de sang et économiques qui ont eu lieu depuis les 27 années, je ne pense pas que ce soit la bonne voie.
Donc à votre avis, ce texte qui institutionnalise la discrimination ne devrait pas passer le cap du Conseil constitutionnel?
Voilà, normalement, le président du FASO ne devrait pas promulguer cette loi et plus tard le Conseil constitutionnel devrait le casser et ne pas juger les candidatures aux élections sur la base de cette loi. éventuellement, sans compter les différents recours qui pourraient avoir lieu auprès des juridictions internationales ou régionales comme la Cour de justice de la CEDEAO ou la Cour africaine des droits de l'homme.
Et puis il y a aussi, hein, comme une sorte de coïncidence, toutes ces interpellations qui concernent les dirigeants de l'ancien parti au pouvoir. Tout ça, ça vous gêne?
Mais on se rend compte aussi que ce sont des interpellations pour nécessité d'enquête. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'inculpation pour le moment vis-à-vis de ces acteurs. Nous attendons de voir que les gardes à vue se terminent et quelles seront les décisions que prendront les juges sur le sort de ces anciens dignitaires.
Siaka Koulibaly, analyste politique à Ouagadougou.
La Voix de l'Amérique au Burkina Faso sur Ouaga FM, 105.2 à Ouaga et 101.1 à Bobo. La Voix de l'Amérique, c'est aussi sur Horizon FM, à Ouaga, Bobo, Koudougou, Wayigouya et Fada.
Depuis plus de deux semaines, les combats font rage au Yémen. En toile de fond, un affrontement régional entre l'Arabie saoudite et l'Iran par factions interposées. La situation humanitaire se détériore et l'UNICEF tire la sonnette d'alarme. Claire Morin-Gibourg a joint Christophe Bouliérac, porte-parole de l'UNICEF.
Écoutez, on va vers une crise humanitaire vraiment majeure au Yémen. Nous avons des chiffres d'enfants, de victimes directes de l'escalade de la violence. Depuis le 19 mars dernier, il y a 77 enfants tués jusqu'à présent et 44 blessés. Il y a un nombre effectivement important d'enfants enrôlés dans les groupes armés. C'est une des atteintes majeures aux droits des enfants dans ce pays.
Vous dites qu'il va y avoir un pic de malnutrition. Pourquoi ?
Il y a une détérioration globale d'une situation qui était de toute façon caractérisée par une fragilité, une vulnérabilité chronique. Au Yémen, 60% environ de la population vit sous le seuil de pauvreté. Le taux de malnutrition chronique, c'est environ 48%. Et c'est le pays le plus pauvre de la région. Ce qui se passe actuellement, cette escalade dans la violence, affecte les services sociaux, qu'il s'agisse des hôpitaux, qui sont de plus en plus mobilisés, sollicités et qui manquent de matériel. Mais également, oui, on s'attend à un taux de malnutrition, notamment parce que certaines infrastructures, comme l'accès à l'eau, sont particulièrement affectées. La malnutrition ne vient pas seulement de l'insécurité alimentaire, mais vient aussi parfois, notamment, de maladies créées par le manque d'eau potable, le manque d'eau saine, comme par exemple les diarrhées sévères. On peut avoir des enfants mal nourris dans un contexte où il y a assez de nourriture, mais malheureusement pas d'eau saine. Et c'est ce qui se passe. Il y a un problème à la fois d'eau et le prix des denrées est en train d'augmenter, l'économie disparaît, la vie va être plus chère pour des personnes déjà pauvres. Et il y a des difficultés de déplacement, une pénurie de carburant. Tout cela va affecter l'économie et ça va évidemment avoir un impact sur la nutrition et la malnutrition.
Christophe Bouliérac, porte-parole de l'UNICEF. La mauvaise réputation du Libéria dans le domaine de la corruption inquiète les donateurs internationaux. Les Libériens eux-mêmes se demandent dans quelle poche vont atterrir les grosses sommes fournies pour lutter contre le virus Ebola. Lionel Gaïma.
La communauté internationale a promis quelques 5 milliards de dollars pour aider l'Afrique de l'Ouest à lutter contre l'épidémie et à se remettre de ses effets. Mais au Libéria, les donateurs redoutent que l'argent n'aille pas à ceux qui en ont le plus besoin à cause d'une corruption érigée en système. Le vice-ministre de l'Information, Isaac Jackson, assure que des mesures de précaution ont été prises et que la communauté n'a rien à craindre.
We've been able to put in place some of the best measures.
Nous avons pu mettre en place certaines des meilleures mesures de contrôle pour l'argent alloué à la lutte contre Ebola. Au moment où je vous parle, le ministre de Finances et du Plan, Amara Kone, a mis à défi tous les ministères et agences qui ont reçu des fonds d'avoir une compatibilité rigoureuse, c'est-à-dire de faire en sorte qu'ils puissent dire comment l'argent destiné au combat contre Ebola a été dépensé. Beaucoup des Libériens restent cependant fort sceptiques. Même la famille de la présidente Ellen Johnson Sirleaf n'est pas épargnée par les allégations de concussion. C'est pourquoi ils se félicitent de la décision de l'USAID, l'agence d'aide des États-Unis, de dépêcher une équipe au Libéria pour un audit de ses projets de lutte contre Ebola. Mais Doug Mercado, le chef de la réponse spéciale de l'USAID dans la lutte contre l'Ebola en Afrique de l'Ouest, souligne qu'il ne s'agit pas d'un audit financier, ni d'un audit de gouvernement libérien. Il s'agit d'un audit routinier, le genre que fait l'USAID dans n'importe quelle situation dans le monde. Il porte sur la performance et nous permet de travailler avec nos partenaires pour être sûr que les programmes mis en œuvre avec nos fonds atteignent les objectifs fixés. L'assistance américaine en Afrique de l'Ouest dans la lutte contre le virus Ebola s'établit à plus de 1,3 milliard de dollars administrés par l'USAID, les centres américains de contrôle des maladies et l'armée américaine. Silas Siakor est le fondateur de SDI, un institut de recherche local qui se penche depuis des années sur la corruption dans les secteurs miniers, forestiers et agricoles. Il estime qu'un audit financier américain sous l'assistance des États-Unis serait une très bonne chose parce que le gouvernement libérien n'est pas le seul à gaspiller les fonds.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington, une fenêtre sur le monde.
Ennui judiciaire en perspective pour Facebook, un groupe de 25 000 usagers du réseau social l'accuse d'utiliser illégalement les données personnelles et a déposé un recours collectif contre le réseau social au tribunal civil de Vienne. Les plaignants réclament chacun la somme de 500 euros à Facebook qu'ils accusent notamment de participer au programme de surveillance de la NSA, l'agence de sécurité nationale américaine. Claire Morin-Gibourg a joint Florence Bonnet, elle est juriste et spécialiste de la protection des données personnelles.
C'est un recours exceptionnel dans la mesure où il concerne un grand nombre de personnes. On parle de 25 000 plaignants et qu'à ce jour, en Europe, on n'a pas eu d'action de groupe ou en tout cas d'action qui s'apparente à une action de groupe de cette ampleur.
Est-ce que pour vous, Facebook fait réellement de la surveillance massive?
Je ne dirais pas que Facebook qui fait de la surveillance massive. Disons que Facebook fait ce qu'on appelle du tracking. Donc c'est un suivi permanent des utilisateurs et même des personnes qui ne sont pas utilisateurs de Facebook, puisque dès lors qu'il y a un bouton de partage du réseau Facebook ou un bouton like sur une page, on sait que Facebook vous suit. Après, le problème de la surveillance, c'est plus, je dirais, la surveillance du gouvernement américain avec scandale Prism qu'on connaît maintenant.
Est-ce que Facebook est partie prenante ou est-ce que Prism utilise les données de Facebook?
Notre point de vue est que les GAFA, et même plus que les GAFA d'ailleurs, les grands fournisseurs de services Internet américains, ont été très complaisants avec le gouvernement américain, pour X raisons, et donc ont laissé le gouvernement américain avoir accès aux données des citoyens européens. Ce sont des faits qu'on ne peut pas nier et qui sont avérés.
Pour vous, un tel recours va-t-il permettre que les internautes soient mieux protégés?
Déjà, il faudrait que cette action soit jugée recevable par la cour autrichienne. Ça, c'est le premier point. Ensuite, il faudra regarder ce qui va être jugé. Si la cour se prononce d'une part sur la politique de confidentialité de Facebook, puisqu'il lui est reproché de ne pas être suffisamment clair et compréhensible des utilisateurs. Ensuite, si la Cour se prononce également sur le fait que la transmission de données au gouvernement américain via Prism est parfaitement illégale et contraire à la réglementation européenne de protection des données et aux droits fondamentaux des citoyens européens. Et puis si la Cour se prononce également sur tout ce qui est suivi des utilisateurs à leur insu. Donc forcément, l'utilisateur de Facebook, et même, je dirais, chaque citoyen européen, puisqu'on consulte tous des pages où il y a des boutons de partage Facebook, sera bénéficiaire.
La juriste Florence Bonnet.
Salut les amis, ici Roger Muntou, VOA Afrique. Retrouvez-moi ce vendredi dans Island Music. Notre sujet hebdomadaire, le sport, outil de développement et de la paix. Appelez-nous au 001-202-619-30-40. J'attendrai vos coups de fil et envoyez-nous vos messages sur notre groupe Facebook Roger Muntou, la voix de l'Amérique. Aussi les amis, il ne faut pas oublier que nous avons un numéro où vous pouvez nous envoyer vos SMS, vos textos. C'est le 225-58-92-85-40. Je répète, 225-58-92-85-40. RM Show, c'est chaque jour à 20h, temps universel, sur VOA Afrique. Peace Africa!
Ainsi va le monde aujourd'hui. La mise en onde était assurée par Anne Albertson, Nicolas Pinault à la présentation. Excellente journée à tous, un très bon week-end. Avant de se quitter, saluons Moribo Traoré, habitant de Thielé, une commune rurale située à 70 km de Bamako, au Mali, et Sougouma Mahamat Modoumi à N'Djamena, la capitale tchadienne. Comme eux, retrouvez-nous sur Facebook et notre site internet voafrique.com.
Soyez au cœur de l'info.